l'Observatoire de l'espace vous souhaite la bienvenue dans son studio cosmique qui élabore une série d'entretiens avec des artistes pour creuser l'hypothèse d'un centre d'art contemporain en orbite terrestre. Une fois donc posé le principe d'exposer de l'art dans l'espace, des questions pratiques mais aussi esthétiques se présentent aussitôt. Comment penser un accrochage en apesanteur? Les manières dont les œuvres peuvent faire signe sont-elles alors sens dessus-dessous? Les propositions artistiques dans l'espace doivent-elles vouloir embrasser d'autres rapports à l'espace? Pour échanger sur une stratégie de curation adaptée à ce qui serait un centre d'art contemporain arrimable à la Station Spatiale Internationale, nous recevons aujourd'hui Stéphane Tidé. Bonjour.
Bonjour.
Savez-vous quelle est la plus grande altitude où vous vous êtes déjà allé?
Non, je ne sais pas.
Vous ne savez pas de combien vous vous êtes déjà approché de l'ISS?
Ouais, non, j'ai un mauvais rapport avec les chiffres.
Et à défaut, est-ce que vous savez jusqu'où vous aimez prendre de la hauteur?
Peut-être la vous parlez physiquement ou intellectuellement?
Globalement, très globalement.
Je sais pas, sans limite, j'espère.
Donc jusqu'à très très loin potentiellement. Bon, bah tant mieux, ça devrait bien se passer. Alors pour faire plus ample connaissance, nous allons sonder vos préférences. C'est devenu une question rituelle dans le studio cosmique. Parmi tous les objets qui sont déjà dans l'ISS, auxquels pourriez-vous vous identifier?
Alors, je pense, selon une histoire que l'on m'a racontée, celle de l'utilisation du velcro, de la bande velcro, voilà, parce que c'est un élément tellement simple qui sert à fixer, à détacher, à accrocher, à remettre quelque. Et je trouvais ça tellement beau que dans cet espace si technologique, on utilise un élément aussi low-tech, aussi commun, qu'on utilise aussi également dans, voilà, pour les sacs à dos, les vêtements, et finalement ça permet que les choses restent en place.
D'accord, ouais. Mais vous seriez plutôt à vous agripper ou à ce qu'on s'agrippe sur vous?
À ce que l'on me détache et que l'on me remette.
Vous êtes bien, vous aimez bien l'idée d'être détachable.
Voilà, exactement.
Et réattachable.
Exactement.
À volonté.
Ouais. M'arrimer, me désarrimer.
Jusqu'à ce que ça pluche un peu.
J'espère.
Ah, vous espérez que ça pluche? Ça adhère moins quand
j'aime quand les choses perdent le contrôle, en effet.
Et dans le mot astromobile, qu'est-ce que vous préférez?
Ah, mobile.
Ah, sans hésitation.
Ouais.
Ok. Pour le titre d'une expo dans l'espace, vous préférez de long en large ou douceur d'horizon?
Douceur d'horizon.
Ça fait un peu mauvais déodorant, non?
Ouais, mais ça me déplaît pas.
Ah, justement, c'est pour le côté mauvais déodorant. Et pour le sous-titre, vous préférez l'étirement pour tous ou grandir quoi qu'il en coûte?
Ah, grandir quoi qu'il en coûte.
Vous assumez là aussi toutes les conséquences?
Ouais.
Si on vous propose d'écouter ceci... Danube bleu de Strauss, ça vous fait penser à quoi?
Alors étonnamment, et je ne sais pas si cette histoire est vérifiée, mais on a dû me la raconter lorsque j'étais enfant, j'imagine. Pour moi, le beau Danube bleu est synonyme de partir en courant, parce que j'avais cru comprendre que pendant la guerre mondiale, avant un bombardement, la seconde guerre mondiale, avant un bombardement, certains hôtels diffusaient le beau Danube bleu pour ne pas créer de panique au sein de la clientèle. Mais que l'équipe même de l'hôtellerie soit consciente qu'il faille évacuer les lieux. Donc pour moi, dès que j'entends le beau Danube bleu...
Pour vous, c'est un signal d'évacuation.
C'est un signal d'évacuation.
Et vous ne pouvez plus vous en détacher.
Voilà, exactement.
Ouais. Bon, il y a un avantage, c'est que ça décubriquise intégralement la référence.
Tout à fait.
Okay. Pour passer un dimanche après-midi, vous préférez trier une malle de cadeaux de Pif Gadget à la recherche d'un mini-télescope ou relire vos archives du journal de Mickey à la recherche de perles spatiales?
Ouais, j'aurais du mal à choisir entre les deux.
Ah, les deux vous attirent beaucoup?
Ouais. Je crois Pif Gadget malgré tout.
Ah oui.
Ben ouais.
Et vous avez collectionné des gadgets, de piles gadgets?
Ah oui, beaucoup. Oui. J'habitais à la campagne et je crois que j'allais jusqu'à pied au bar tabac qui vendait Pif Gadget. Voilà, c'était ma motivation d'aller chercher toutes les semaines le prochain gadget. Ouais.
Et vous avez déjà regardé le ciel avec un mini télescope
Non,
du journal? Non.
non, 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 non. J'avais, non, non. J'ai pas. J'ai dû rater celui-ci, malheureusement.
Quel dommage. Parmi vos œuvres spatiales, il y a des œuvres qui changent d'état et qui ont l'air de vouloir mettre en avant qu'elles n'ont pas besoin de vous pour évoluer. C'est très marquant, par exemple, dans une œuvre qui s'intitule From Walden to Space.
Oui, alors From Walden to Space, alors qui existe en deux chapitres, peut-être le deuxième chapitre est plus intéressant à évoquer. Il s'agit donc de la reproduction de la capsule qui a été utilisée lors de la mission Mercury 7. Donc c'est la reproduction de la capsule en bois. À la manière d'une cabane en bois et clous, dans laquelle tous les instruments de bord ont été changés par des synthétiseurs modulaires, donc en fait des instruments de musique, qui permettent en fait à la capsule de générer de manière autonome sa musique.
Sans vous donc.
Sans moi, même si parfois je suis invité pour l'habiter et essayer d'influencer cette électricité qui produit du son. Donc oui, cette question de l'autonomie, d'un système autonome, mais qui ne m'exclut pas non plus, c'est-à-dire sur lequel je peux quand même avoir de temps en temps une invitation. Oui, c'est quelque chose qui m'intéresse, comment les choses peuvent vivre d'elles-mêmes.
Mercury 7, c'est un programme de 1958. Pourquoi celui-là?
Alors, je pense à la base par hasard. Il se trouve que bah, je travaille aussi tout simplement avec les choses qui se télescopent dans ma vie. Il se trouve que je relisais Walden de Thoreau à l'époque, et puis je tombais sur des retransmissions en fait de certains astronautes pendant la mission. Et ces choses étaient tellement à l'opposé l'une de l'autre, c'est-à-dire quand même donc voilà Thoreau qui écrivait sur une sorte de manifeste là, de la décroissance, de l'autonomie.
C'est en 1854, hein, c'est devenu une référence dans la littérature écologique.
Tout à fait. Et en même temps, moi, écoutant finalement une sorte d'opposé, la prouesse technologique, économique et presque de conquête, donc une sorte d'inversion. Et je me disais, mais finalement, comment ces deux mondes, voilà, les humains, comment ça se rejoint, où est-ce que ça se rejoint, est-ce que ça se rejoint? Et puis, oui, d'une certaine manière, j'ai trouvé un endroit où ça se rejoint, c'est que finalement, il y a un humain seul dans un habitacle, dans une cabane ou dans une capsule, avec finalement, lorsque chez Thoreau, on met à part toute la pensée économique et sociale, il y a la contemplation de son environnement. Et dans les retransmissions donc de Mercury 7, lorsque les astronautes ne sont pas en train de décrire justement scientifiquement ce qu'ils observent, il y a exactement la même chose, c'est-à-dire la contemplation des lumières, des particules, voilà, avec pour le coup une forme vocale, donc avec une certaine exclamation, surprise. Et voilà, donc il s'agit d'aventures très solitaires au bout du compte, à la fin de l'aventure, avec ce rapport à l'observation et une contemplation assez poétique voilà. Et donc voilà, et c'est de ce fait-là, j'ai souhaité cristalliser ces deux opposés en une forme et une forme qui m'invite à des actions également.
Et voici ce que la musique générée peut donner. Alors, en faisant ce télescopage entre Mercury 7 et Walden, ça veut dire que on est dans une situation de contemplation qui est à égalité entre terrestre et spatial?
Je ne saurais pas dire, je n'ai vécu ni l'un ni l'autre. Non, bah, l'envie de télescoper, c'est plutôt fabriquer une forme hybride, c'est pas à comparer, mais c'est plutôt créer un troisième potentiel, donc qui est cet objet étrange, dont par exemple la forme musicale est très aussi low-tech. Il y a quelque chose, quelque chose de presque un peu ridicule dans les sons, parce que sont des synthétiseurs créés en bois. Donc ils sont pas non plus le fruit d'une prouesse technologique. Donc il y a un peu toutes ces choses qui se rencontrent et fabriquent une hybridation, une autre forme. Voilà, plutôt que d'une manière de les comparer, je dirais, c'est plutôt ça.
Et alors quand Thoreau écrit par exemple « Je ne voulais pas vivre ce qui n'était pas la vie », vous pouvez peut-être nous expliquer comment est-ce qu'on sait ce qui n'est pas la vie ?
Non, je ne le sais pas.
Et un séjour dans l'espace peut nous aider à savoir ?
Possiblement, possiblement. Non, je ne sais pas ce qui n'est pas la vie. On le saura bien assez tôt.
Ouais. En tout cas, bon, il y a quand même cette histoire de rivalité entre contemplation céleste et contemplation terrestre. Et vous pensez que l'espace pourrait nous détourner plus ou moins exclusivement de l'écoute de la nature terrestre, donc ?
Oui, je pense qu'il faut appeler ça, oui, la nature terrestre, parce que finalement, il y a quand même l'idée d'un tout qui dépasse, qui dépasse l'environnement terrestre. Non, ce qui m'intéresse vraiment, c'est mais comme tout, je dirais même en art, en politique, c'est prendre du recul. C'est sûrement là qui la chose qui m'intéresse, c'est comment s'éloigner, comment faire le pas de côté. Et puis je dirais, dans nos conditions de terrien, c'est le plus extrême qui soit, ce pas de côté, aller pouvoir regarder la Terre, l'englober d'un regard. Je pense que oui, ça doit être une manière d'envisager les choses complètement différentes.
Vous pensez qu'il aurait fait quoi, Thoreau, dans l'ISS?
C'est une bonne question. Il aurait sûrement réécrit son manifeste d'économie.
Intégralement.
Sur la question d'autosuffisance.
À une autre échelle, donc.
Ouais, à une autre échelle.
Voici une hypothèse sonore. Qu'est-ce que vous entendez là ?
Des pas dans la neige ou je me trompe ? Je me trompe.
Pas seulement.
Pas seulement.
C'est un rythme plutôt d'ici, de loin d'ailleurs.
C'est pour moi une déambulation, une marche, un rythme. Il faudrait que je réécoute en fait.
Vous entendez plutôt un éloignement ou un rapprochement ou...
Non, un accompagnement.
Ah oui, un accompagnement.
Plutôt, ouais.
Donc quelqu'un qui est seul ou pas seul ?
Non, il y a l'air en tout cas d'avoir du matériel, il y a quelque chose, il y a...
Ah oui,
ouais.
Et pour vous c'est low-tech ou pas ? Est-ce que vous avez l'air d'en faire une sorte de critère ?
Je ne me suis pas posé la question. Non, vraiment, j'ai senti comme une marche.
Alors avec l'Observatoire de l'espace, vous êtes en train de produire une œuvre intitulée Oscar, qui sera intégrée à l'expérience scientifique Air Coaster du Laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques, LISA, et qui sera justement embarquée à l'extérieur de la Station spatiale internationale à l'horizon fin 2023, dans un an. Oscar, c'est un acronyme ou ça vient d'une mythologie personnelle ?
C'était la volonté de nommer de manière identifiable, d'avoir un prénom.
Vous vouliez un prénom.
Et il se trouve que c'est un prénom que j'ai utilisé comme pseudo, donc il y avait quelque chose de très, très simple.
Ah, vous l'aviez déjà utilisé, vous ?
Il m'arrive d'utiliser Oscar comme pseudonyme, notamment. Voilà.
Dans quel contexte ? Si c'est pas indiscret, parce que parfois les pseudos...
Non, c'est justement pour cacher son identité.
Ok, alors ce sera une œuvre musicale à l'arrivée.
Oui, tout à fait.
Générée par les données captées au cours du vol orbital.
Tout à fait.
Quel type de données ?
Alors, en fait, donc c'est une sorte de machine qui est composée en deux parties, on va dire. Une partie qui a une réaction réellement physique et une partie logicielle. Donc la partie physique qui est activée par des ressorts, enfin qui se constitue plutôt de ressorts de choses qui bougent, qui va être activée par la chaleur qui change de manière cyclique constamment. Donc cette déformation, on va dire, métallique de l'objet va me permettre de récupérer des courbes. Par ailleurs, on va écouter tout un nombre de capteurs, qu'ils soient de photosensibles, qu'ils soient de vibrations, de température également. Et tous ces capteurs-là vont fabriquer des notes. Voilà, pendant un an. En gros, c'est une machine à écrire une partition et qui va écrire une partition d'un an pour piano et synthétiseur, un duo.
Un duo pour piano et synthétiseur, donc qui à partir des notes générées par les capteurs.
Voilà, en direct, en orbite.
Et donc toute cette séance de captation va durer une année pleine,
ouais.
Tout 2024.
Ouais.
Et donc début 2025, donc vous serez en mesure de générer une œuvre, mais qui durera combien de temps ?
Alors si tout se passe bien, je tout redescend sur Terre, on branche à l'imprimante. Et donc on a un an de partition. Et alors là, il y a plusieurs envies. Donc déjà une manière sûrement de forme exposée, mais qu'elle soit exposée durant pour sa totalité, donc avec un piano mécanisé et un synthétiseur. Donc ça veut dire un an d'exposition.
Une œuvre. Ce seront des notes dans un tempérament égal. Il y aura 12 notes par octave.
Oui. Alors voilà, moi j'ai travaillé avec en effet la simplification d'un comment. Alors non, pas pour le synthétiseur.
Oui.
Le synthétiseur ne sera pas tempéré.
D'accord.
Mais le piano le sera. Ce sera un piano classique.
D'accord.
Voilà. Et la deuxième forme que j'aimerais développer, c'est la forme plus vivante, plus simple, où la technologie disparaît quasiment, qui serait vraiment d'inviter une ou un pianiste à en interpréter un extrait et travailler également avec une ou un chorégraphe.
Mais si, par exemple, on demande à un pianiste à partir de votre partition de jouer la partition du, 14 février 2024, elle durera combien de temps ?
Je pense que ce serait une décision à prendre ensemble.
Ah d'accord, ça pourrait aller de 20 secondes à 3 heures.
Oui, alors c'est aussi la question de la partition. Pourquoi j'ai pensé assez rapidement à développer une partition ? C'était en prenant conscience du temps du développement d'un projet tel que celui-ci. C'est-à-dire de l'invitation au retour sur Terre, il se passe vraiment plusieurs années, avec des décalages en plus. Je me suis demandé comment je fais moi pour être toujours à la même pensée, la même envie, la même découverte également avec ce temps de distance. Finalement, j'ai l'habitude de travailler dans des temps assez courts. Les projets les plus longs que j'ai réalisés, c'est autour de deux années de travail. Mais voilà, là, il va s'écouler 5-6 ans. Et le fait de travailler, de proposer une partition, me permet encore d'interpréter, encore de créer. C'est-à-dire que ce qui va revenir n'est pas un objet ou une forme terminée. Donc la question de l'interprétation, la question des décisions, des choix, ça va venir en deuxième temps également.
Donc, ce sera sur Terre.
Et ce sera sur Terre. En fait, c'est un projet qui va à la fin se dérouler sur Terre. Ouais.
Allons un peu plus loin dans le travail artistique avec l'espace. Le milliardaire japonais Yuzaku Maezawa a récemment donné la liste de 8 personnes qui l'accompagneront en 2023 pour un voyage spatial autour de la Lune à bord d'une fusée SpaceX sans alunissage. Ce sera la mission Dear Moon qui portera 8 artistes, dont un DJ, 2 photographes, un acteur, un chanteur. Vous pensez que ça peut fournir des œuvres intéressantes ?
J'espère que tout contexte peut fournir des œuvres intéressantes.
Donc vous pourriez les solliciter dans un projet pour l'ISS ?
Pourquoi pas ? Il faudrait que je découvre leur travail, mais pourquoi pas ?
Par ailleurs, on sait que des scientifiques australiens veulent tenter de faire pousser des plantes sur la Lune d'ici 2025, dans le cadre d'une nouvelle mission dévoilée, dont l'objectif est de développer une colonie. Et pendant ce temps, au mois de novembre dernier, l'école d'ingénieurs de Purpan, le chef étoilé Thierry Marx, le spécialiste de cuisine moléculaire Raphaël Aumont et une toute jeune start-up toulounaise nommée Orius ont dévoilé un partenariat pour développer un potager sur la Lune. ils ont inventé ce qu'ils appellent une biomébox, un peu comme une cave à vin, mais de 2 mètres de haut et 3 mètres de large pour faire pousser des fruits, des légumes, des aromates. D'où la question, comme il n'y a pas de nourriture sans culture, est-ce qu'il manque un artiste dans ce projet de jardinage lunaire ?
Oui, la question du tiers paysage dans l'espace avec Gilles Clément, pourquoi pas ?
Oui, elle se poserait comment ?
Non, mais voilà, il me semble qu'on est de toute façon sur des projections fantasmées. La question est vraiment la question du déplacement. C'est, en fait, c'est ce qui me semble intéressant. C'est-à-dire que c'est plutôt l'exercice même de projection plutôt que le résultat qui me paraît le cœur de la chose. Imaginer un potager est presque plus intéressant que d'en voir le résultat, de se dire bon, est-ce que ça pousse comme ci ou comme ça quelque part. Par contre, l'imagination même de rendre extraterrestre cette chose si terrestre, voilà, me paraît un environnement poétique de pensée finalement.
Oui, mais alors justement que cette biomébox soit par exemple projetée comme ayant la forme d'une cave à vin, ça vous semble prometteur ou un défaut d'imagination?
Peut-être ça appartient plus au domaine d'une certaine curiosité pour moi.
Alors que se développe donc tout un débat s'il faut s'approprier des matériaux dans l'espace, on peut dire qu'avec le projet Oscar, vous vous apprêtez quand même à faire la première musique spatio-extractiviste de l'histoire de l'humanité.
Peut-être, je ne me suis pas posé la question en ce sens-là. Mais...
Au sens où vous allez en effet capter des données spatiales.
Oui, alors ça c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, hein, mais la véritable, on va dire peut-être s'il y a nouveauté, c'est le fait que tout se passe in situ. Voilà, c'est-à-dire c'est pas des données que je récupère de l'espace pour faire quelque chose sur Terre, c'est quelque chose qui est fabriqué sur Terre, que l'on envoie comme une boîte noire et qui va être autonome. Voilà, et qui va écrire en temps réel pendant un an de cycle autour de la Terre et la surprise, j'espère bonne, du résultat lorsqu'on la reçoit. Mais voilà, il y a peut-être ce voilà, si vous parlez de nouveauté, voilà, peut-être à cet endroit-là le fait même que ça va se dérouler sans ma présence, sans notre présence, voilà, de manière autonome.
Ah oui, c'est-à-dire que finalement le protocole de From London to Space, avec ce qu'il pouvait avoir de non-invasif de votre part, c'est aussi un ferment de...
Oui, il y a un lien, bien sûr, tout à fait. Ouais.
Voici un son. Vous pensez que c'est le tapis de sport déjà présent dans l'ISS ou l'enregistrement d'une machine à laver de 1966 ou une œuvre sonore ?
Oui, je pensais à une œuvre sonore plutôt, oui.
Et alors, vous arbitreriez comment cette question ?
Non, je commençais à m'attacher à la mélodie des bips qui se passaient.
Qui faisait le bonadum bleu, à vrai dire.
Voilà, mais c'est, oui. Voilà. Oui, non, ça ressemble plutôt à une œuvre sonore.
Ça n'était pas moins les bips d'un tapis de sport, en fait.
Ok, c'est... ok. Ouais, okay. Ouais. Bon, il faudrait que je me renseigne sur la salle.
Mixé avec une machine à laver de 1966, finalement, okay. Les réponses ne s'excluent pas. Nous sommes maintenant à mi-parcours de ce studio cosmique. Dans la vie, qu'est-ce que vous êtes... quand est-ce que vous êtes sûr d'être à mi-chemin?
Je sais pas, je connais pas la fin du chemin. je sais pas.
Okay. Ça dépend des chemins.
Ça dépend des chemins, ouais, elle est complexe la question.
Non, elle est belle. Et alors ?
Non, mais j'espère garder en tout cas, plutôt que le mi-chemin, toujours garder le même appétit des débuts.
Voilà. Même sur le retour.
Exactement. Ouais.
Maintenant que nous connaissons donc un peu mieux votre manière de vous acheminer, nous allons découvrir plus en détail votre projet donc pour le Centre d'art de l'Observatoire de l'Espace. Avec détournement à la Conciergerie de Paris, vous faisiez une œuvre qui débordait son lieu d'accueil, la Conciergerie, pour donc en faire une sorte de bras de la Seine. Vous feriez pareil dans l'ISS ? Vous feriez pendouiller des œuvres à l'extérieur du module du Centre d'art ?
Je pense que je réagirais différemment. En fait, oui, ce que j'aime en fait dans le travail que j'appellerais in situ, c'est d'être à l'écoute des environnements. Donc là, si j'ai travaillé de cette manière à la conciergerie, c'est parce que, voilà, à Paris, si proche d'un bâtiment qui faisait figure d'autorité à une époque, il y avait cet élément si sauvage qu'est un fleuve. Voilà, donc cette présence de ces deux, un élément et un objet architectural, et un signe, finalement, politique également, voilà, comment je fais rencontrer et jouer ces choses-là. J'imagine que dans l'ISS, je travaillerai complètement différemment, j'espère, et beaucoup plus à l'écoute des spécificités du lieu.
Alors, quelles sont-elles? Comment vous les identifiez?
Ah bah bon, déjà évidemment, hein, il y a cette histoire de manque de pesanteur, hein, j'imagine, qui nous fascine tous, quoi, et qu'on ne pourrait pas voilà, mettre de côté. Il y a la question de l'isolement. L'isolement, se retrouver loin des siens, loin de l'oxygène, loin de l'eau, loin du vent, enfin voilà, de tout ce que l'on connaît sur Terre. La question même de la verticalité, de l'horizontalité, de la paroi, la surface, elle est différente, et le fait d'être dans un environnement entièrement fabriqué par l'homme. Ça, ce serait la question aussi qui m'habiterait beaucoup, quoi. Comment, c'est-à-dire on a un rapport à l'artificialité. Il n'y a pas de rocher, il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de. Voilà, j'ai un rapport assez sensible avec les éléments naturels, enfin les éléments bruts en général, qu'ils viennent d'une ville ou de la nature. Mais tout de même, là, il y a très peu d'autres choses que celles que l'on fabrique.
Monsieur Krohn, vous aviez fait le rideau d'eau devant le théâtre Gralin à Nantes. Il fallait de la verticalité, de la gravitation, de l'eau. Alors, si on devait le répliquer, dans l'ISS, ce serait pas seulement impossible, ça pourrait être une expérience de pensée particulière.
Ah ouais, non, je pense, oui, comme je disais, je répliquerais pas une œuvre. Non, j'aimerais travailler avec les spécificités du.
À savoir
spécificités
que
lieu,
devient ouais. Un jet d'eau.
Que devient exactement que devient un fluide lorsqu'il n'a plus de contenant, lorsqu'il n'a plus de verticalité, lorsqu'il n'a plus de chute. Voilà, comment questionner la. Oui, voilà, la chute. Je pense au travail de Bastien Ader, dont la chute est si présente dans le travail, la gravité dans tous les sens du terme. Qu'est-ce qui se passe quand on perd cette gravité? Voilà, comment on peut adapter.
Ouais, mais c'est toujours à Nantes. Vous aviez aussi introduit des loups dans les douves du château des Ducs de Bretagne. Vous imaginez faire aussi des œuvres avec faune dans l'ISS?
Non. Le geste finalement que j'ai proposé à Nantes pour cette biennale estuaire, c'était symboliquement redonner un territoire à ceux qu'on a chassés. Donc ça me semblerait absurde d'extirper plutôt pour amener ailleurs du vivant. Voilà, donc je ne me vois pas travailler avec des animaux dans l'espace.
Mais donc j'ai l'impression que vous feriez plutôt des ready-made avec les objets déjà présents dans l'ISS pour en faire des œuvres d'art ou
Non, je crois que
vous apporteriez des choses quand même.
Ouais.
Alors quoi?
Moi, je sais pas comment on travaille avec du sable. Comment on travaille avec des fluides, en fait, comment on travaille sans le dans la question de la dispersion, par exemple, comment on travaille sans les murs, même s'il y en a, mais voilà, quand on voit bien les formes, il y a cette question de on a plutôt l'impression d'un habitacle. Oui, j'aimerais des choses qui s'y développent en intérieur, la question du temps, la question de la lumière, la question de l'isolement. Voilà, ce sont des choses qui pourraient m'habiter.
Et ça prendrait quelle forme? Parce que la question de l'isolement, elle est tellement évidente une fois qu'on est dans un lieu comme celui-là qu'il faudrait la rejouer, faudrait recapitonner le visiteur, par exemple.
C'est pas évident de répondre comme ça, puisque finalement, là, mon premier geste sur l'ISS, c'est finalement quelque chose qui n'a pas de forme plastique, puisque je propose une partition. Donc, il y aurait en tout cas quelque chose qui ne soit pas défini. de cette même manière. Ce serait plutôt travailler par protocole, sans en définir des formes, mais que la forme soit issue des conditions même de l'environnement, ouais.
D'accord. Donc il y aurait quelque chose d'Oscar qui se rejouerait là. Est-ce que Oscar, c'est, je disais en ouverture de ce studio cosmique qu'on allait échanger sur une stratégie de curation, est-ce que le projet Oscar est un projet potentiellement curatif ou curatorial ?
Non, Oscar est un projet là pour le coup autonome, avec voilà qui a été composé par le regroupement de savoir-faire humain et voilà dont je dirige, on va dire, l'aspect artistique. Mais non, c'est un projet particulier c'est pas un projet curatorial, je crois pas. C'est une œuvre en soi.
Bah, si ce n'est que ce que vous venez de dire, c'est que sa façon de permettre forme à partir de protocoles pourrait devenir une sorte de paradigme à l'échelle des œuvres que vous mettriez dans l'ISS. Oui, vous pourriez solliciter des artistes dans ce sens-là.
Avec plus de liberté que mon protocole. Leur demanderais plutôt à eux d'inventer des protocoles.
D'accord. Ce qui est une manière de travailler.
Oui, tout à fait. Oui.
D'accord. Alors, ça suppose d'imaginer des artistes spécifiques pour...
Oui, en tout cas des pratiques, oui.
Des pratiques.
Des pratiques spécifiques, oui, tout à fait. Je crois que j'aimerais peut-être mettre aussi en péril ou en question des pratiques qui ne peuvent avoir lieu que sur Terre. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait.
Ouais.
Je sais pas, je pense par exemple à cette artiste américaine Bridget Polk, dont le travail consiste à monter en équilibre, à échafauder des équilibres très complexes de pierres les unes sur les autres, ou de parpaings, ou de, voilà, qui est une pratique très proche de la méditation aussi, enfin, et dont la gravité est le cœur même de l'ouvrage. Inviter Bridget Polk à cet endroit-là serait une forme très intéressante. C'est-à-dire quand le cœur même du travail, et en tout cas la condition physique pour qu'il existe, n'est plus là, qu'est-ce qu'invente alors l'artiste ? Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait me titiller dans cette réflexion-là.
Est-ce que les audioguides de vos expositions dans l'ISS pourraient aussi se laisser contaminer par des sons pris alentour ?
Oh bah, un audio guide n'a de raison d'être que s'il est une œuvre pour moi. Donc, voilà,
Et alors, il ressemblerait à quoi?
Je pense que j'inviterais les artistes à l'investir justement, comme un des espaces potentiels.
Mais alors, il prendrait des sons alentour?
On peut pas vraiment capter les sons aux alentours. Il y a les sons de l'ISS qui sont produits de l'ISS. Non, je pense qu'il faudrait en inventer.
Ah, parce que sinon, il y aurait le recours à un casque anti-bruit en guise de
ouais, voilà, c'est ça, ouais. Non, je pense que l'invention, l'invention serait la bonne piste.
Le bruit de l'ISS pourrait être réutilisé?
Oui, tout à fait. Je pense que là, pour le coup, c'est une matière sonore assez, assez riche, oui.
On pourrait se réinjecter, se refiltrer.
Ouais, en termes de vibration, c'est une sorte de gros objet qui vibre, en fait.
Comment est-ce que vous imagineriez l'éclairage de l'exposition quand le soleil se lève et se couche 16 fois par 24 heures?
Comme tel. Comme vous venez de le citer.
D'accord. Donc vous laisseriez faire ce que produit
le complètement. Ouais, moi j'aime assez les œuvres qui s'auto-éclairent.
Ah oui, donc vous n'opteriez pas pour un éclairage artificiel totalement contrôlé.
Non.
Et alors il y aurait un circuit de visite spécifique?
Non, vu le l'espace paraît assez confiné, donc le mot circuit me paraît pas tout à fait approprié. Non, ça c'est une vraie question. Est-ce que c'est quelque chose que l'on regarde en étant à l'intérieur ou un petit peu de loin? Ce rapport à l'œuvre, ce rapport même à la peinture de paysage, voilà comment on regarde une œuvre. Est-ce qu'il faut être à l'intérieur? Est-ce qu'il faut être avec? Ou alors avec un tout petit peu de recul? Il est possible que cette version-là m'intéresse, ouais.
Alors, on a un artiste mystère qui vous propose une œuvre pour l'ISS.
Oui, bonjour Stéphane, je voudrais vous proposer de créer une partition chorégraphique à partir de la déambulation des visiteurs qui visitent l'exposition. En plus, ça permettrait de pas très bien savoir qui sont les visiteurs, qui est le corps de ballet. Est-ce que ça pourrait vous intéresser?
Ah oui, ça pourrait m'intéresser, mais alors là, je...
Vous le programmeriez comment, ce ballet?
Waouh.
Parce qu'il dépend de l'éclairage, le ballet, donc déjà...
Oui, tout à fait, oui. Oh là là, il faut que je réponde aussi rapidement. Non, je sais pas. Le contexte m'intéresse. Après, répondre aussi rapidement, ouais, c'est, ouais. Ça me paraît difficile.
Ça se travaille une proposition.
Ça se travaille, exactement.
Bon, ouais. Il est potentiellement retenu, cet artiste, alors.
Ouais, c'est un beau projet. Ouais.
Est-ce qu'il faut faire écouter le son d'Oscar à l'espace? Il faudrait le projeter comme ça.
Non, je pense que c'est vraiment, pour le coup, une œuvre destinée aux humains. Pour
ah,
le
d'accord.
Moment.
Donc vous ne pensez pas encore l'ISS comme sound system?
Non, pas encore, non.
D'accord.
Non. Je crois que finalement, c'est un projet qui se développe dans l'espace, mais qui a son public sur Terre.
Pour revenir donc alors dans ce centre d'art de l'ISS, puisqu'on ne pourra pas y entendre Oscar, puisque c'est destiné à la Terre, est-ce qu'il faudra une mise en condition préalable du public?
Bah ça, oui, j'imagine. Vous voulez dire techniquement par rapport aux conditions de l'ISS ou artistiquement?
Non, aussi artistiquement. Est-ce qu'il faut de la médiation, par exemple?
Non, artistiquement, je pense le moins possible.
Ah, donc c'est une bonne occasion de ne pas faire de médiation?
Ouais. Non, j'ai rien contre la médiation, mais
non, oui.
J'aime la surprise, j'aime l'inattendu, j'aime qu'on ne se prépare pas à, c'est aussi ça, les merveilleuses rencontres avec les œuvres, c'est quand on ne s'attendait pas à, et je pense que c'est important de garder.
Ah oui, parce que pourtant on imagine que pour faire des œuvres dans l'espace, il faut faire encore plus des dossiers et des protocoles. Est-ce que vous pensez que l'ISS pourrait être l'occasion d'un autre rapport avec les mécènes, les partenaires?
Oui, j'imagine que oui, déjà, oui, ce serait une question très complexe d'ailleurs. Pour moi, c'est à quel point, comment on garde son autonomie d'artiste, puisque il y a forcément une lourdeur financière, ne serait-ce que pour acheminer quelque chose là-bas. Donc, il y a une vraie question aussi sur à quel point on dépend d'une société, à quel point, comment les choses existent économiquement même.
Et ça veut dire que ces considérations, finalement assez ergonomiques, finiraient par exemple, donner lieu à des modules d'enseignement dans les écoles d'art, comment bien préparer une expo dans l'espace ou... Vous enseignez vous-même dans une école d'art à Nantes?
Oui, tout à fait.
Imaginez faire des workshops spatiaux?
Spatiaux, non, pour l'instant terrestres, mais à l'écoute et au regard et à la pensée de l'espace. Donc, pour l'instant, finalement, ce que je veux dire, c'est que en tant qu'artiste aujourd'hui, pour moi, tout est une histoire très terrestre. J'ai beau travailler sur une œuvre qui va se développer dans l'espace, finalement je travaille avec des gens sur Terre, je travaille avec des choses qui sont fabriquées sur Terre, et je travaille pour un endroit que moi-même je ne verrai jamais. C'est quelque chose qui m'intéresse. Là, en fait, finalement, ce travail in situ, il est à peu près, je ne le fétichise pas, je fantasme pas plus qu'aller travailler, développer une œuvre pour une montagne, pour un ruisseau, pour une ville, pour quoi que ce soit. La seule différence, c'est que je ne connaîtrai jamais, en tout cas pour le moment, je crois pas, mais je ne connaîtrai jamais l'endroit où l'œuvre va se développer. Voilà, ça c'est la vraie spécificité pour moi de ce lieu. C'est travailler uniquement par imagination, par projection. Le fait de travailler in situ, en général, me demande de m'imprégner d'un lieu. Et cette fois-ci, je ne pourrais pas le faire. Ça, c'est une spécificité intéressante. Et si, par exemple, dans une école d'art, j'aime réfléchir à ces questions-là, c'est aussi sur le mécanisme que ça développe, que ça déploie d'imagination, de projection, d'invention. C'est un territoire d'invention.
Parce que si le projet Oscar est donc un projet artistique qui va de terre à terre, même s'il passe donc par l'espace, toute la question est maintenant de se poser comment est-ce qu'on pourrait faire des œuvres depuis la Terre, mais qui restent dans l'espace? Alors, voilà la réponse que nous a faite dans le dernier studio cosmique, Erwan Venn.
J'ai fait un cycle de vidéos qui s'appelle Destroy Wallpaper. C'est des motifs de papier peint qui évoluent sur des sons. Et je me suis toujours dit qu'il fallait s'adresser aux cosmonautes. Et donc, je pense qu'aux cosmonautes, ils ont besoin de trucs... alors après, je ne sais pas, il faudrait leur demander. Mais des choses qui rappellent la Terre. Donc, ce seraient des trucs avec des sons... des bruits de square, des bruits de mer, des bruits de campagne, d'eau, de ville, et avec des motifs de papier peint qui évoluent là-dessus.
Donc voilà l'œuvre que Erwan Venn prévoit de laisser à l'ISS. Vous, qu'est-ce que vous laisseriez comme œuvre?
Alors, je pense que je ne laisserai pas une œuvre pérenne, justement. Je pense que je laisserai peut-être même justement plus un protocole d'invitation ou que les choses se renouvellent. Je pense que les moments d'ennui doivent exister, de redondance dans ce genre d'espace. Et au contraire, je crois, j'aimerais plutôt participer en créant du nouveau, de l'inattendu, comme je disais, mais voilà, des choses qui se développent. Donc je pense pas à une œuvre en particulier, mais je penserais à un système d'invitation, d'intervention, que les choses se renouvellent régulièrement.
Donc ce serait des events, enfin des...
Oui, par exemple, inviter, je sais pas, qu'est-ce que ferait la peintre René Lévy en travaillant pas sur les murs, comment faire de la peinture in situ sans parois, par exemple, voilà des questions sur un environnement sans gravité, comment le dessin peut exister. Je pensais aux œuvres d'Abdelkader Benchama, voilà comment qui prend en charge des architectures, des lieux, avec cette notion aussi de dessin in situ, comment ça peut exister en dehors aussi de cette verticalité de paroi, comment, et sans sens.
Ah, donc ce serait des invitations.
Des invitations.
Pour tester
Tout à fait. Je ne laisserai pas d'œuvre, je pense. Moi-même, en tant qu'artiste, je développerai un système de protocole.
D'accord.
Et d'invitations, ouais.
Donc, par exemple, tous les 12 avril, pour le Yuri Day, vous pourriez accueillir des artistes qui auraient testé.
Voilà, je dirais, je fonctionnerais comme un commissaire ou un DJ en tant qu'artiste, mais pas comme, plutôt avec des manières de penser. Mais je ne laisserais pas, moi, une œuvre, je crois pas.
Très bien. Et est-ce que vous organiserez des enregistrements du Studio Cosmique dans l'ISS?
Ah oui, c'est une bonne idée, ça.
Ça se passera comment?
À peu près pareil, mais en flottant.
Ah oui, c'est pour ça. Très bien. Merci beaucoup.
Je vous en prie, merci.